de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Sajurita, bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. Président Joko Widodo a déclaré que le gouvernement s'efforçait de réduire la TVA sur les véhicules électriques. Président a reçu les lettres de créance des 9 ambassadeurs. Secrétaire général de la Chambre des représentants a déclaré que l'EVP 2024 en Indonésie est apprécié dans le monde entier. Japon a été dépassé par l'Allemagne en tant que pays ayant la troisième plus grande économie. Indonésie et Singapour établissent une coopération CEC pour zéro émission de carbone. Beran ouvre une collaboration mondiale pour observer l'espace via l'Observatoire de Timau. Le gouvernement de la réserve de Kudus étudie la coopération avec le gouvernement britannique. Voici le journal complet. Le gouvernement n'a pas d'intention d'ajouter à nouveau des incitations pour les véhicules électriques, mais il s'engage à encourager une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, pour les produits destinés aux véhicules électriques. Cela a été transmis par le président Joko Widodo après l'ouverture du Salon international de l'automobile d'Indonésie, IIMS 2024, Asia Expo Kemayoran, Jakarta, jeudi 15 février.
Sementara belum, tapi kita akan sudah mendorong dengan apa pengurangan PPN.
Pas encore, mais nous avons encouragé pour une réduction de la TVA. Je pense que cela encouragera les ventes et plus tard, cela conduira à la production dans les usines de véhicules électriques en Indonésie. Je pense que nous allons dans ce sens afin que nous puissions rivaliser avec d'autres pays. Auparavant, le président Joko Widodo a déclaré que les véhicules électriques constituaient l'avenir de l'industrie automobile indonésienne. En effet, l'Indonésie dispose d'un approvisionnement en matières premières de soutien tels que le nickel. Le Salon international de l'automobile d'Indonésie est l'un des salons automobiles d'Indonésie qui se tient régulièrement chaque année. IIMS 2024 a lieu du 15 au 25 février 2024. Le président Joko Widodo reçoit les lettres de créance des 9 ambassadeurs des pays amis au Palais Merdeka, Jakarta, jeudi 15 février. C'est le communiqué officiel du bureau de presse du secrétariat présidentiel reçu par Antara. Les 9 ambassadeurs des pays amis reçus par le président étaient l'ambassadeur de Biélorussie, Raman Ramanowski, l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, Armin Limo, l'ambassadeur mauritanien, Wedadi Old Sidi Aiba, l'ambassadeur du Japon, Masaki Yasushi, l'ambassadeur égyptien, Yasser Hassan Farak El-Shemi, l'ambassadeur du Bangladesh, Tariqul Islam, ambassadeur d'Algérie Hassan Rabehi, l'ambassadrice uruguayenne Cristina González et l'ambassadeur de Portugal Miguel de Mascarenhas de Carreiro Velho. La remise de la lettre de créance a marqué le début de mission officielle de ces ambassadeurs indonésiens. Chef du bureau de coopération interparlementaire BKSAP du secrétariat général de la DPRRI, Endah Cahyani Dwirini, a déclaré que le programme de visite électorale 2024 EVP a été apprécié par les délégations des pays observateurs. Cité par Antara dans un communiqué reçu jeudi 15 février, Endah a déclaré que cela se reflétait dans le grand enthousiasme des délégués à participer à ce programme depuis leur arrivée en Indonésie. Selon Endah, ils ont été émerveillés par le peuple indonésien, en particulier Bali, qui était enthousiaste à l'idée de mettre en œuvre le Parti démocratique. Ils ont également été étonnés de voir les agents sur le lieu de vote, car les Indonésiens ont un caractère coopératif. Observateur de la Northern University, États-Unis, Eric Jones a apprécié les VP 2024 qu'il juste passionnant. Eric a admis avoir appris la leçon après avoir vu la situation sociale et politique de l'Indonésie. Le délégué parlementaire tanzanien Ali Barki Emmanuel Kingu a également félicité l'Indonésie qu'il considère comme ayant réussi à organiser l'une des plus grandes élections au monde de manière crédible, transparente, démocratique et pacifique. Les élections en Indonésie ont été surveillées par 19 pays et 3 organisations parlementaires internationales. En 2023, le Japon a perdu son statut de troisième économie mondiale et a été remplacé par l'Allemagne. Le Japon est tombé de manière inattendue dans la récession au dernier trimestre de l'année dernière en raison de la faiblesse de la demande intérieure. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement japonais jeudi 15 février, rapporté par Kyodo. Produit intérieur brut, le PIB nominal du Japon non corrigé de l'inflation s'élève à 4 210 milliards de dollars américains, soit environ 65,7 quadrillions de roupies. Ce montant est le quatrième au monde après l'Allemagne qui a affiché 4,6 billions de dollars américains, soit 69,6 quadrillions de roupies. L'Indonésie et Singapour signent une lettre d'intention LOI pour collaborer sur des activités de captage et de stockage du carbone CSC afin d'atteindre zéro émission de carbone en 2050. Cité par Antara, adjoint à la souveraineté maritime et à l'énergie au ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Jody Mahardi, dans sa déclaration jeudi 15 février, a déclaré que cette initiative place l'Indonésie comme un acteur clé dans le paysage CSC d'Asie du Sud-Est en introduisant un mode de coopération environnementale entre les pays. Jody a déclaré que la collaboration avec Singapour vise à accroître l'engagement de l'Indonésie en faveur d'une responsabilité environnementale de premier plan en Asie du Sud-Est. Selon lui, cette collaboration montre également l'approche proactive de l'Indonésie dans l'utilisation de technologies innovantes pour une croissance durable. À cette occasion, le secrétaire adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Kate Tan, a déclaré que le CSC transfrontalier est une solution qui se développe actuellement en Asie. Selon Kate Tan, Singapour et l'Indonésie peuvent être des pionniers dans l'accélération des projets transfrontaliers de CSC en Asie du Sud-Est. L'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRAN, a fait de l'Observatoire national de Timau, dans la région de Kupang à l'est de Nusa Tenggara, une plateforme de collaboration internationale pour les observations spatiales comme l'Observatoire Bosha à l'ouest de Java. Cité par Antara, chercheur expert principal au Centre de recherche spatiale BRAN, Thomas Jamaluddin, dans sa déclaration de jeudi 16 février, a déclaré que le fonctionnement de l'Observatoire de Timau est prévu pour la mi-2024. Outre la construction d'un télescope optique, un radiotélescope d'un diamètre de 20 mètres sera également construit à cet observatoire pour la recherche astronomique et astrophysique. Le chef du BRAN, Laksana Trihandoko, a déclaré qu'avec l'achèvement immédiat de la construction de l'observatoire, d'autres installations de soutien seraient également préparées, telles que l'électricité et Internet. Selon lui, l'Observatoire national de Timor doit pouvoir devenir un centre de collaboration non seulement au niveau national, mais au moins au niveau régional. Andoko espère que le programme proposé pourra être mis en œuvre avant que l'Observatoire national de Timor puisse fonctionner tant d'un point de vue technique et substantiel. Le gouvernement de la résidence de Kudus dans le centre de Java étudie la coopération dans divers domaines avec le gouvernement britannique. Cité par Antara, le résident par intérim de Kudus, M. Hassan Habibi, a déclaré jeudi 16 février que sa partie était optimiste quant au grand potentiel de Kudus. Il suffit de courage, de vision et de volonté politique pour emmener l'excellence de Kudus sur la scène mondiale. Outre la collaboration, la résidence de Kudus explore également le potentiel de villes jumelées avec les gouvernements municipaux d'Angleterre. Hassan a déclaré que son gouvernement souhaitait en savoir plus sur le système d'enseignement professionnel, l'urbanisme, les transports publics, l'énergie verte et la gestion de la crise climatique. Auparavant, le gouvernement de la résidence de Kudus a reçu la visite d'une délégation de l'organisation musulmane britannique Minhaj Welfare Foundation. Au cours de la réunion, le gouvernement de la résidence de Kudus et la Minhaj Welfare Foundation ont convenu de lancer plusieurs programmes stratégiques tels que l'envoi de prédicateurs de Kudus en Angleterre et le renforcement des réseaux de recherche universitaire. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Élections générales indonésiennes attirent l'attention des médias étrangers » avec moi Audrey. Sur jeudi tard, les élections pour élire le président et le vice-président ainsi que les membres du corps législatif indonésien ont eu lieu mercredi dernier, 14 février. Quant à l'étranger, il s'est déroulé par étapes du 5 au 14 février. À Hong Kong, par exemple, le vote a eu lieu le 13 février dans 4 bureaux de vote situés à l'intérieur du consulat général d'Indonésie à Hong Kong. Les élections générales indonésiennes, auxquelles ont participé plus de 204 millions de personnes inscrites sur la liste électorale permanente, ont retenu l'attention de plusieurs médias étrangers. Le média britannique BBC a spécifiquement couvert le déroulement des élections directement, en temps réel, depuis ce qui s'est passé dans la région la plus orientale de l'Indonésie, la Papouasie, jusqu'aux inondations dans les bureaux de vote, dans le centre de Java. Ensuite, il y a eux aussi des nouvelles sur les moments où les candidats à la présidentielle, à savoir Anies Baswedan, Prabowo Subianto et Ganjar Pranowo, ainsi que le président Joko Widodo, ont voté dans leurs bureaux de vote respectifs. The Guardian, un média imprimé bien connu, également basé en Angleterre, présente également des faits sur les élections en Indonésie. Ce journal présente pas seulement le parcours des trois candidats à la présidentielle, mais discute également de l'élection indonésienne qui est évaluée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux comme la plus grande élection, avec des défis logistiques assez lourds, impliquant différents types de véhicules pour distribuer les bulletins de vote à un plus grand nombre de personnes, plus de 820 000 bureaux de vote sur tout l'archipel. Parallèlement, le plus grand média d'information du Moyen-Orient, Al Jazeera, a également rendu compte directement de l'évolution du processus électoral en Indonésie, depuis l'analyse d'experts sur la démocratie en Indonésie, les espoirs des électeurs envers le président élu, jusqu'au bureau de vote doté de décorations uniques et attrayantes. Le média japonais NHK Mondial a spécifiquement affiché les visages des trois candidats à la présidentielle sur la première page de son site d'information. NHK Mondial rapporte que l'enjeu des élections en Indonésie est de savoir s'il faut poursuivre la politique du président Joko Widodo ou poursuivre les réformes. En outre, Channel News Asia, CNA, a également fait des élections indonésiennes l'un des principaux objectifs de ses reportages. L'AIC a souligné le fait que l'Indonésie, en tant que troisième plus grande démocratie au monde, a organisé pour la première fois en 15 ans des élections présidentielles et vice-présidentielles avec trois candidats. D'un autre côté, les journalistes de l'AP ont couvert le processus de vote des élections de 2024 à Hong Kong, citant le grand nombre des citoyens indonésiens à Hong Kong. Ils veulent voir dans quelle mesure les citoyens indonésiens qui se trouvent à l'étranger, en particulier à Hong Kong, sont intéressés à participer aux élections de 2024. À l'attention considérable portée par les médias étrangers à la tenue des élections de 2024 montre que le processus de changement de direction en Indonésie est très important, pas seulement pour la nation indonésienne, mais aussi pour le monde international. Qui sera élu président et vice-président de l'Indonésie pour les 5 prochaines années doit encore attendre que le processus de décompte des voix par la Commission électorale générale soit terminé. Ce qui est sûr, c'est que, qu'il soit, il sera certainement capable de diriger la nation et l'État indonésien. Et l'État indonésien dans une meilleure direction. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire du jeudi. Nous commençons l'histoire du jeudi avec les événements du 16 février 1946. Le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU a été utilisé pour la première fois. Le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU a été utilisé pour la première fois par l'Union soviétique le 16 février 1946 pour s'opposer aux propositions de retrait des troupes étrangères de Syrie et du Liban. Le droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU était initialement détenu par 5 pays, à savoir les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et la République de Chine ou Taïwan. Un droit de veto a été accordé à ces 5 pays car il était considéré comme le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. En 1971, le droit de veto de la République de Chine a été transféré à la République populaire de Chine et la reconnaissance de l'ONU étant transférée à la Chine continentale. Et le principe d'une seule Chine a été adopté par les 2 pays. En 1991, avec la dissolution de l'Union soviétique, le droit de veto a été transféré à la Russie. Le 16 février 1983, deux incendies majeurs ont lieu dans l'État de Victoria et d'Australie du Sud. En 12 heures, plus de 180 incendies se sont déclarés, exacerbés par des vents chauds pouvant atteindre 110 km par heure. Les incendies ont provoqué la destruction de plus de 3700 bâtiments et la mort de centaines de milliers de têtes de bétail dans les 2 États. 75 personnes sont mortes à cause de ces incendies, 47 chacune à Victoria et 28 en Australie-Méridionale. Cet incendie était le plus meurtrier en Australie jusqu'au feu de brousse à Victoria en 2009, qui avait fait 173 morts. Le 16 février 2005, le protocole de Kyoto entre en vigueur. Le protocole de Kyoto est un amendement de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, un accord international sur le réchauffement climatique. Les pays qui ratifient ce protocole s'engagent à réduire leurs émissions, le dégagement de dioxyde de carbone et 5 autres gaz à effet de serre. Cet accord est entré en vigueur le 16 février 2005. À ce jour, 181 pays plus l'Union européenne ont ratifié le protocole de Kyoto. Si les mises en œuvre avec succès, le protocole de Kyoto devrait réduire les températures moyennes mondiales de 0,02 degrés Celsius jusqu'à 0,28 degrés Celsius en 2050. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kau takkan pernah bisa
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est « Le président inaugure le salon automobile IIMS 2024 ». Le président Joko Widodo estime que les véhicules électriques sont l'avenir du monde automobile indonésien, car l'Indonésie possède du nickel et d'autres matières premières. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo après l'ouverture officielle de l'Exposition internationale de l'automobile d'Indonésie, IIMS 2024, à Jakarta International Expo, JEXPO Kemayoran, Jakarta, jeudi 15 février. Même si le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter les incitations pour les véhicules électriques, le chef de l'État a déclaré que le gouvernement avait donné un certain nombre d'incitations pour encourager l'augmentation de la production de véhicules électriques en Indonésie. Ces incitations comprennent entre autres une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. En offrant ces incitations, le président espère que l'industrie automobile électrique indonésienne pourra rivaliser avec d'autres pays. De plus, l'Indonésie a le potentiel et la force de développer des batteries pour véhicules électriques. En outre, le président a déclaré que ces incitations étaient accordées à tous les producteurs de véhicules électriques, y compris ceux produisant des transports publics électriques. Tout le monde est encouragé à tout produire en Indonésie. Le président espère que toutes les marques de véhicules électriques seront produites en Indonésie, car l'Indonésie possède la puissance des batteries de véhicules électriques. Le Salon international de l'automobile indonésien IIMS 2024 a lieu du 15 au 25 février 2024. L'exposition de cette année s'intitule IIMS Infinite Life et est animée par diverses marques automobiles mondiales. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tuhan, berikan aku hidup.
plus tard, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission Le magazine culturel. Et je vais vous présenter culinaire Rara Gudik avec Maudry. Serge Létard, en voyageant dans les régions de Kuningan et Cirebon, Java occidental, vous trouverez le Rara Gudik culinaire que vous pouvez acheter en souvenir. Ce plat culinaire a une texture sèche, un goût sucré et s'est enveloppé dans du papier huilé. En 2017, Rara Gudik a été enregistré comme patrimoine culturel immatériel dans la catégorie culinaire traditionnelle sur le site web sur patrimoine culturel immatériel du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Chargé d'art, le Rara Gudik est fabriqué à partir de farine de riz mélangée à du riz gluant, de la noix coco et du sucre. Rara Gudik a une couleur brune typique mesurant 1 sur 2 cm. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent acheter des délices culinaires comme souvenir, vous pouvez les acheter dans les boutiques de souvenirs ou sur les marchés traditionnels des régions de Cirebon et Kuningan. Le prix est d'environ 18 000 roupies par paquet. Chers amis, Rara Gudik existe depuis l'époque coloniale néerlandaise. Initialement, ce gâteau était inclus dans les plats lors de la célébration, en particulier dans le contenu du besek. C'est nourriture placée dans une boîte en bambou tressé que les participants à la célébration pouvaient emporter chez eux. Dans son développement, ce gâteau n'est pas seulement destiné à des fins de célébration, mais c'est devenu un plat ou un gâteau d'accompagnement pour se détendre en buvant du thé l'après-midi. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel.
Mungkinkah terjadi,
Serge Litard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Je vais vous présenter le designer indonésien remporta le prix du jeune designer de l'année en Autriche, avec moi Audrey. Chargé d'État, les réalisations des enfants du pays ont été à nouveau enregistrées grâce à un conseil de conception de bateaux de croisière. Le prix du jeune designer de l'année 2024 a été décerné à Kitzbühel, en Autriche. À Pradipta Rahman Hakim, un jeune designer exceptionnel, elle a réussi à remporter le titre prestigieux au Board International Designer and Innovation Award 2024 grâce à son design époustouflant. Elle a même réussi à attirer l'attention de Feedship, une entreprise de conception industrielle et navale de haut niveau qui est le principal sponsor du prix. Dans la conception nommée Bluminance, cet ancien élève d'ITC Marine Engineering se concentre sur la présentation d'un conseil de navire qui met l'accent sur la fonctionnalité sans ignorer les éléments esthétiques. Le design futuriste qu'elle a créé a été présenté avec succès grâce à un art fort soutenu par une excellente planification de l'aménagement et un intérieur attrayant. Le point fort du conseil comprend un grand espace de détente ouvert à l'arrière avec une piscine comme pièce maîtresse. Musique. Dipta a expliqué que le processus d'organisation du concours était long et que l'évaluation était assez stricte par les juges de l'industrie des super yachts. Au cours des 5 mois de travail, elle a activement comblé ses lacunes en approfondissant ses connaissances des systèmes de rendu, un design d'intérieur et même en trouvant des instructeurs auprès de sources en ligne. En guise de pas en avant, Dipta s'engage à continuer à contribuer au progrès de la conception des navires, tant en Indonésie qu'à l'international. Bon, cher Jouetard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Tak pernah ku duga kita akan berjumpa dan telah bersama di siang malam aku memikirkan kamu siang malam kamu terfikirkan aku kita menyatu. Datang bila ku tak pulang bukan ku tak sayang mohon kau jangan marah karena akan datang waktu ku tak pulang waktu ku tak datang kini tiba saatnya ku pergi ku mohon jangan tangisi walau perih suatu datang bila ku tak pulang bukan ku tak sayang mohon kau jangan marah karena akan datang waktu ku tak pulang waktu ku tak datang.
Of Indonesia. selalu gundah menunggu wanita.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des magazines culturels avec moi, Audrey. Chers amis, dans cette édition des magazines culturels, je vais vous présenter une chanson pop de Sulawesi du Sud intitulée Padengan. Padengan signifie interprète ou danseur. Cette chanson a été écrite par Arshad Basir et popularisée par Aulia Anas et Salma Rani, généralement jouée en accompagnement d'une danse. Padengan s'inspire du folklore de Sulawesi du Sud sur les habitants du ciel et de la terre. En langue Makassar, le paradis est appelé Boting Langi, ce qui signifie habitant du ciel, alors que les habitants de la terre sont appelés Lino. On raconte que Boting Langi et Lino ont vécu côte à côte jusqu'à ce que le temps les sépare. Boting Langi doit vivre dans le ciel et être séparé des habitants de Lino qui vivent encore sur terre. Avant le départ de Boting Langi, ils ont enseigné aux habitants de Lino comment vivre, comme l'élevage, l'agriculture et la chasse. En guise de gratitude, le peuple Lino a présenté des danses et des chants padengan. Cette histoire est devenue l'inspiration du chant et de la danse popularisée padengan et c'est devenu une partie des trésors culturels du peuple Sulawesi. Pour changer de tard, voici Ifan Suadi et Putri Rizki vont chanter une chanson de sud de Sulawesi intitulée Padengan. Bonne écoute!
Come on.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!